La page 80, on commence le premier cours Bezrat Hashem sur Igeret, Igeret Hatshuva. D'accord, donc Igeret Hatshuva, c'est une lettre que l'Admor HaZaken a écrite, une longue lettre, en 12 chapitres. C'est pas très long, c'est pas très long. Je pense qu'on a à peu près jusqu'à Pessah, peut-être, dans le meilleur des cas. Mais c'est une lettre qui est très structurée, dans laquelle l'Admor HaZaken explique en long et en large le concept de la Teshuva. Et il enlève beaucoup d'idées reçues. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la Teshuvah qui sont complètement fausses. Par exemple, les gens pensent que la Teshuvah, ça veut dire faire des jeûnes. Jeûner. Les gens pensent beaucoup de choses sur la Teshuvah. Il va enlever beaucoup d'idées reçues sur la Teshuvah. Et chaque chose qu'il dira sera à chaque fois appuyée par des textes. D'accord? Donc par les textes de la Gemara, du Midrash, du Zohar. Chaque chose qu'il dira sera appuyée. D'accord? Mais il va expliquer en long, en large, il va surtout enlever beaucoup d'idées reçues sur la Teshuvah. Ça va nous permettre de comprendre le concept qui se cache derrière la Teshuvah. Pourquoi on appelle ça Igeret à Teshuvah? Igeret en hébreu, ça veut dire quoi? Igeret en hébreu, ça veut dire une lettre. Par définition, une lettre, c'est quoi? Il y a deux choses pour une lettre. Premièrement, une lettre, c'est quelque chose qu'on envoie à quelqu'un qu'on a du mal à accéder. C'est-à-dire qu'on a du mal à lui parler directement, donc on va lui envoyer une lettre. Ça peut être soit parce qu'il est très loin, soit parce que c'est le voisin d'à côté, mais je ne peux pas lui parler directement, donc je lui envoie une lettre. Donc ça, c'est pour ça qu'on envoie une lettre. Donc, de la même manière, il y a beaucoup de choses qui seront dans cette lettre, dans cette Igeret HaTshuvah. Des fois, ça peut pas être dit directement face à face, mais quand c'est écrit dans un livre, on l'accepte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à entendre de quelqu'un. Quelqu'un qui vient comme ça, il te parle de Teshuvah, t'arrives pas à entendre. Mais quand c'est écrit, tu dis, bon, c'est le livre qui te parle, c'est pas la personne qui te parle. Ça, c'est le concept d'une lettre. Pour ça, souvent, quand on veut écrire à quelqu'un et, quand on veut dire quelque chose à quelqu'un qu'on n'arrive pas, on lui écrit une lettre. Ça, c'est la lettre qui a parlé, c'est pas moi. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'il y a dans une lettre, c'est quoi? C'est qu'une lettre, ça se garde pour longtemps. Quand c'est une lettre importante, on la garde pour longtemps. D'accord? Quand c'est une lettre importante, on la garde pour longtemps. Donc ça, c'est une lettre que l'Admor HaZaken a écrite pour que les chassidim, d'accord? Pour que les chassidim la gardent. Donc, on commence tout de suite. D'accord? Donc, vous remarquez que cette Igeret HaTshuva commence également par quel mot? Quel mot?
Tania.
Donc, Perek Alech, chapitre 1, bien sûr.
Tania.
Et toujours Tania. Encore une fois, ça commence avec le mot Tania. Qu'est-ce qu'il a ce mot Tania? Donc, c'est pas seulement ça. C'est que là, en plus, l'Admor HaZaken, pour commencer avec le mot Tania, vous savez que Tania en hébreu, Tania en araméen, pardon, dans la Gemara, quand on rapporte une Mishnah, on écrit Tnan. Lorsqu'on rapporte une Braïta, on écrit Tania. C'est quoi la différence entre une Mishnah et une Braïta? Une Mishnah, c'est ce qui a été enseigné par les maîtres de la Mishnah. Et une Braïta, c'est 400 ans plus tard, environ, par leurs élèves. Et là, dans ce cas-là, on dit Tania. Et dans la Gemara qu'on va ramener ici, à la fin du traité Yoma, il y a plusieurs versions. Et la majorité des versions dans la Gemara qu'on a aujourd'hui, quand vous ouvrez la Gemara aujourd'hui, c'est écrit Tnan. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est une Mishnah. Mais l'Admor HaZaken, il n'a pas suivi toutes ces versions-là. Il a suivi une version qu'on retrouve dans l'Ein Yaakov qui dit, il y en a qui disent comme ça, qui dit Tania. On dirait qu'il a quelque chose avec le mot Tania. Ouais, qu'est-ce qu'il a avec le mot Tania? Alors c'est pas pour rien. C'est la même raison pour laquelle Admor HaZaken a choisi de commencer le premier livre, enfin la première partie du Tania avec le mot Tania. Pourquoi il a commencé avec le mot Tania? Alors c'est très simple, il y a plusieurs raisons, deux raisons principales. Première raison, parce que le Zohar explique, il dit que Tania est le nom d'une klipa, c'est-à-dire d'une force du mal, qui existe particulièrement chez les gens érudits en Torah. Et qu'est-ce qu'elle fait cette force du mal? Elle s'arrange pour leur amener un esprit d'égoïsme. D'accord? Et un esprit d'égoïsme, d'accord? Et d'orgueil. Elle leur amène l'orgueil. Ça s'appelle, et cette clipa, il y a une clipa, il y a une force du mal, tout son rôle c'est quoi? Elle va chez les gens érudits en Torah, elle fait tout ce qu'elle peut pour leur mettre de l'orgueil. L'orgueil et l'égoïsme. Elle fait tout ce qu'elle peut. Et pour combattre cette clipa-là, hein, c'est les combats entre Tzadiki, mais bon. L'Admor HaZaken, il commence son texte par Tania pour dire, maintenant, on va te faire la guerre, toi. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Tania, quand on inverse les lettres, ça nous donne Etan. Etan, Aleph, Yud, Tav, Nun, c'est les mêmes lettres, vous pouvez le retrouver. Etan en hébreu, ça veut dire quoi? Etan en hébreu, ça veut dire fort. Ça veut dire que le but du Tania, c'est de nous aider à découvrir la force qu'il y a dans la Neshama. Donc c'est chaque mot est calculé dans le Tania.
C'est inversé, là, Ethan.
Si. Allez. C'est pas inversé, c'est les mêmes lettres.
Ah, d'accord.
D'accord. Donc, chaque, alors bien sûr, on va pas s'arrêter sur chaque mot et chaque lettre qu'il y a dans le Tania. C'est intéressant parce que le père du Rabbi, il a écrit un long commentaire sur le Tania. Enfin, un long. Il s'arrête vraiment quelques mots sur quelques mots à chaque fois. Chaque commentaire est seulement de quelques mots. Et chaque fois, il montre comment chaque lettre du Tania est précise. Si on va pas s'arrêter, on n'aura pas le temps et on n'a pas le niveau de s'arrêter sur ça. Mais au moins, on voit comment juste, le fait que la Gemara Zaken a choisi de commencer cette fameuse lettre par Tania et pas par Tna, il y a une raison.
Le père du Rabbi, si,
le père du Rabbi. Le père du Rabbi, oui, dans les vite. Alors. Donc on commence. Tania s'est enseigné. Besof Yoma, à la fin du traité Yoma. Shlosha Chiluke Kapara M. La Gemara enseigne la chose suivante, elle dit, il existe trois types de pardon. Déjà, quand on parle de Teshuvah, on va tout de suite parler de pardon. Vous allez voir que c'est... Moura Zaken va expliquer que Teshuvah et pardon sont deux choses qui sont étroitement liées. Encore, repentir et pardon sont deux choses qui sont étroitement liées. On va expliquer, vous inquiétez pas. Donc la Mishnah dit comme ça. Elle dit, Shlosha Chiluke Kaparaem, il y a trois catégories de pardon. Utshuva im kol echad, donc il y a trois catégories de Averot. Et il y a trois catégories de Tshuva qui existent, qui vont correspondre à ces trois catégories d'Averot. D'accord ? Ça, c'est ce que dit la Mishnah. Alors, c'est quoi ces trois catégories ? Il explique. Première catégorie, c'est quoi ? Première catégorie, c'est Avar al mitzvat asé veshav. Si une personne a transgressé une mitzvah positive et il a fait tshuva. Alors, donnez-moi un exemple d'une personne qui transgresse une mitzvah positive. C'est quoi une mitzvah positive ? Par exemple. Un exemple. Mettre les tefillin, par exemple. Un autre exemple. Faire le schéma. Faire le schéma, c'est une mitzvah positive de faire le schéma le matin et le soir. Il n'a pas fait. Donc il a transgressé une mitzvah positive. Il a transgressé une mitzvah positive. Veshav, mais il a fait tshuva. Ça veut dire quoi, il a fait tshuva? On verra après. Mais il a fait tshuva, il a décidé dorénavant de bien se comporter. Ça, c'est la première catégorie. Dans cette catégorie-là, s'il a transgressé une mitzvah positive et il a fait tshuva, Einozaz Misham. Alors c'est une expression dans la Mishnah qui dit il ne bouge pas. Vous cherchez un Tania ?
Moi j'ai pas la bonne idée.
Ah.
Il n'y a pas en gros.
Ah, peut-être celui-là avec.
Ça c'est grand ça. Il n'y a pas plus. Non, si tu veux celui-là, moi je vais essayer.
Non, c'est bon. Ça, vous arrivez à lire celui-là ? Comme ça, vous arrivez à lire ?
Non, mais c'est bon, je vais essayer. La semaine prochaine, je vais
le D'accord. Ok. Alors, Einozaz Misham, donc ça c'est la première catégorie de Averot. C'est-à-dire une personne qui transgresse une mitzvah positive. Dans ce cas-là, Einozaz Misham, Hachemochalimlo. Il ne bouge pas de là-bas, ça veut dire qu'il ne bouge pas, c'est-à-dire sur place il reste, Hachemochalimlo, jusqu'à ce qu'on lui pardonne. Ça veut dire qu'il peut avoir une teshuvah express sur place. On expliquera après, ça c'est la Mishnah. Première catégorie, une personne qui transgresse une mitzvah positive, du style il a oublié de mettre de filine. Il se rend compte, le lendemain, il fait teshuva, jamais je recommencerai. La première chose que je ferai le matin, je me traite le signe, il fait une teshuva extraordinaire. Pas de problème. Et nos Misham, il ne bouge pas. Atimochalimlo, jusqu'à qu'on lui pardonne, c'est-à-dire on lui pardonne sur place. Ça, c'est une première catégorie. Deuxième catégorie. Avar al mitzvat lotase. S'il a transgressé une mitzvah négative. Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait ? Exemple.
Il a...
Ça veut dire quoi ?
Il a mélangé...
Ça veut dire qu'il a mangé quelque chose d'interdit. D'accord ? Quoi encore ? Un autre exemple. Il a mis un vêtement chatnez. Oui. D'accord ? De laine et de lin mélangés. C'est pareil. Il a transgressé une mitzvah négative. Il y a des mitzvahs positives et des mitzvahs négatives. Donc il a transgressé une mitzvah négative. Bon. Et il veut faire tshuva. Je regrette, mais là c'est plus la même chose. Là, qu'est-ce qu'on te dit ? Vous avez dans les mots ? Il faut suivre dans les mots, c'est mieux. Alors, quatrième ligne. Tshuva tola, dans ce cas-là, la teshuva suspend. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la teshuva ne peut pas pardonner la faute entièrement. La teshuva ne peut pas effacer la faute dans ce cas-là. La teshuva peut simplement suspendre. Suspendre quoi ? Suspendre la punition. Il dit, bon écoute, je fais teshuva. Pour l'instant, je te mets en stand-by. Voilà, comme pour les avions. Je te mets en stand-by. Et jusqu'à quand ? Yom Kippourim, Mechaper. Qui c'est qui pourra pardonner ? C'est Yom Kippour. Pourquoi Yom Kippour ? On verra après. Donc ça, c'est une deuxième catégorie. Ça, c'est une deuxième catégorie de Averot. D'accord ? Donc, je répète. Première catégorie, il a transgressé une mitzvah positive. Dans ce cas-là, on lui accorde la tchouva sur place. Deuxième catégorie, il a transgressé une mitzvah négative, du style, il a transgressé le Shabbat, etc. Dans ce cas-là, c'est quoi son dîn ? Il fait tchouva, mais la tchouva va seulement suspendre la punition jusqu'à Yom Kippour. Alors, avant de passer à la troisième catégorie de Averot, la Gemara Zakai va tout de suite ouvrir une parenthèse, quelques lignes, mais très importante. Parenthèse très importante. Pourquoi une parenthèse très importante ? Parce que quand on lit cette Mishnah, on peut avoir l'impression que qu'est-ce qui est plus grave entre une mitzvah positive et une mitzvah négative ? Une mitzvah négative, parce qu'apparemment, la mitzvah positive, tu m'accordes le crédit sur place. La mitzvah négative, ça prend du temps, et Yom Kippour, on va savoir, ça prend du temps. Donc celui qui lit la Mishnah, il peut comprendre que qu'est-ce qui est plus important, c'est une mitzvah négative. Or, ça, c'est complètement contraire à la manière de voir les choses de la chassidoute, et c'est même complètement contraire à la manière de voir les choses du judaïsme. Que dans le judaïsme, on dit que le plus important, c'est d'agir. Alors que là, on a l'impression que le plus important, c'est de rien. C'est plus important de ne pas faire que de faire. La mitzvah négative serait plus importante que la mitzvah positive. D'accord ? Pas seulement ça. D'accord ? Pas seulement ça. On sait très bien ce que la Gemara Zakai expliquera par la suite, que si finalement Dieu nous a créés simplement pour qu'on ne fasse pas des bêtises, bah, il a des malachim qui font mieux que nous. Qui font beaucoup mieux que nous. Le fait de ne pas faire du mal. Donc, il nous a créés pour construire la chevette, etc. C'est une des premières choses que Kadosh Baruch Hu a dit à Adam Harishon. Il a dit, je vous ai créé pour construire, pas pour vous retenir. C'est sûr qu'il faut se retenir. Mais le but principal de notre création, c'est de créer, d'agir. Donc, a priori, quand on lit cette Mishnah, on a l'impression que transgresser une mitzvah négative, bah, c'est plus grave que transgresser une mitzvah positive. Alors, Moraz Zakai ne dit pas du tout, c'est une erreur. Je vais t'expliquer, c'est très simple. Il dit pirouche, ça veut dire. De afalgav shelinyan kiyum. Que bien qu'en ce qui concerne l'accomplissement, mitzvat asek de là. En ce qui concerne l'importance de l'accomplissement, quelle mitzvah est plus importante ? Pas une mitzvah négative, une mitzvah positive. D'où on sait ? Shedoré et lota asek. Puisqu'on sait qu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. Ça veut dire, par exemple, il y a une mitzvah de ne pas faire couler du sang Shabbat. Et une autre mitzvah, de faire la Mila le huitième jour. D'accord ? Quand les deux mitzvot arrivent les deux en même temps, un bébé, il arrive son huitième jour, c'est Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait la Mila. Ah, pourquoi tu fais la Mila ? C'est positif contre négatif. Le portant, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais la Mila. D'accord ? Un autre exemple. On a une interdiction de... On a une interdiction de porter un vêtement... D'accord ? De porter un vêtement en châtenaise. D'accord ? Ça veut dire avec la laine et le lin mélangés. Très bien. Qu'est-ce qu'a dit la halakha ? D'accord ? Qu'est-ce qu'a dit la halakha ? La halakha dit comme ça. Dit, imagine-toi que j'ai un vêtement en lin. J'ai un vêtement en lin. À quatre coins. Donc je dois mettre les titites. Les titites doivent être de quelle matière ?
En laine.
Ah mais pourtant, attends. Pour faire une mitzvah positive, tu es en train de contredire une idée négative. Parce que tu vas mettre... T'as un vêtement en lin, tu vas mettre des titites de techelet, parce que c'est le techelet, tu vas mettre des titites de techelet en laine, parce que le problème est le suivant, c'est que les titites de techelet, à l'époque, ne pouvaient être qu'en laine. Celui qui a un vêtement en lin, quatre coins, qu'est-ce qu'il met comme titite ? Il met des titites en laine. Un problème. C'est quoi la réponse ? La réponse est très simple, c'est qu'une mitzvah positive repousse toujours une mitzvah négative. Donc il y a une mitzvah positive de mettre les titites, ah, à cause que je mette les titites, maintenant il y aura de la laine et du lin, c'est pas grave. La mitzvah positive repousse la mitzvah négative. Encore un autre, il y a plein d'exemples, encore un autre qui passe par la tête. Si par exemple quelqu'un il a la lèpre, d'accord ? Il a la lèpre à l'endroit de sa brit mila. De manière que le docteur pense qu'on peut faire la brit mila. Normalement, la Torah interdit de couper la lèpre. On n'a pas le droit d'enlever la lèpre. Mais de notre côté, il doit faire la brit mila. C'est une interdiction dans la paracha Metzora, c'est écrit, il n'a pas le droit d'enlever la lèpre. Mais là, s'il va enlever cette peau, il va faire la brit mila, c'est un problème. Alors lequel il va gagner ? Encore une fois, qui c'est qui va gagner ? C'est la mitzvah positive, on va faire la brit mila. D'accord ? Donc de là, de tout ça, on voit quoi ? On voit que c'est évident que qu'est-ce qui est plus important entre une mitzvah positive et une mitzvah négative ?
Positive.
C'est la mitzvah positive. Ah, alors comment ça se fait que dans la Mishnah qu'on vient de dire, on a l'impression que se faire pardonner sur une mitzvah négative, c'est beaucoup plus grave qu'une mitzvah positive ? Moraz Zakai va expliquer, c'est très simple. Ça, c'est une parenthèse, je ne veux pas trop m'arrêter dessus. C'est très simple. D'accord ? Il dit, c'est très simple. Aïnou Mishoum, Shaliyedek Yum Mitzvat Ase, Mamshir or veshefa ba'olamot ayonim, me'arat ha'ansof baruchu, kemo shekatu bezohar, deramar pikudim, inod remar chevarim de malka. Il est très simple. Il dit, quand je fais une mitzvah positive, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais une mitzvah positive, j'amène une énergie divine. Ça, c'est quelque chose qui est revenu très très souvent dans le Tania. Je fais une mitzvah positive, j'amène, je fais descendre une énergie divine. On sait très bien ce qu'on a répété plusieurs fois, que les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres, si on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu. Et alors? Vegam al nafsho aelokit ke moshe omrim asher ki deshanu be mitzvotav. C'est-à-dire comme ça. Quand je fais une mitzvah positive, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'amener une énergie divine sur moi. Quand j'accomplis une mitzvah négative, ça veut dire quand je ne transgresse pas une mitzvah négative, qu'est-ce que je fais? Là, je fais rien descendre, par contre, je nettoie. Là, vous avez une maison qui est sale. Il y a deux choses. La première, tu vas nettoyer les murs. Deuxièmement, tu vas faire la peinture. Deux choses. Ils n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'accord? Celui qui fait une avéra, c'est comme si il prend le mur et il va le salir. Bon, ça c'est une avéra. Il a transgressé une mitzvah négative. La mitzvah positive sert à quoi? Sert à mettre un coup de peinture. Avec ça, le bon Razaken va expliquer, c'est très simple. D'accord? Il va dire, écoute bien, c'est très simple. Alors, celui qui a transgressé une mitzvah positive, ça veut dire qu'il veut mettre les tefilines. Il veut mettre les tefilines. Il n'a pas mis les tefilines. Est-ce qu'il peut rattraper ce manquement? C'est fini. Il devait mettre les tefilines chaque jour de sa vie. D'accord? Il vit plusieurs milliers de jours dans sa vie. Il a manqué un jour. Est-ce qu'il peut récupérer ce jour? C'est fini. Il devait mettre un coup de peinture. Il devait mettre 20 000 coups de peinture. Il n'en a mis que 19 999. Il a manqué un coup de peinture. Il explique qu'en vérité, on ne peut pas vraiment faire teshuva sur une mitzvah positive. Et c'est pour ça qu'on t'accorde tout de suite, parce que finalement, tu ne peux pas faire teshuva. La seule chose sur laquelle tu peux faire teshuva, comme il expliquera après, c'est que tu peux demander pardon à Dieu si je t'ai manqué de respect. Bon, c'est vis-à-vis de Dieu. Je t'ai manqué de respect, désolé, j'aurais dû le faire. Mais concrètement, tu l'as pas fait.
Si on peut pas faire, pourquoi faire? Alors, pourquoi on se fait
teshuva? On va voir. Si on peut pas faire. Alors qu'une mitzvah négative, c'est beaucoup plus facile à réparer. Parce qu'une mitzvah négative, c'est quoi? J'ai salué le mur. Bah, très bien, on va mettre un coup de peinture. Ça peut se réparer. C'est peut-être difficile, mais ça peut se réparer. Pourquoi le Mourazaken explique ça? C'est très important d'expliquer ça, cette parenthèse. La Mourazaken veut expliquer que, Chas Veshalom, il faut pas penser qu'une mitzvah négative est plus grave qu'une mitzvah positive. Au contraire, le but du judaïsme, c'est d'agir. On encourage constamment les gens non pas à se retenir, d'accord, mais à agir. Il y a d'autres religions dans lesquelles on encourage les gens constamment à ne pas agir. On dit, le moins tu fais, le mieux c'est. Ça, au moins tu fais de bêtises. Sinon, on te dit, non, il faut faire. Ah, peut-être en faisant, je vais me tromper. Eh ben, tu vois, si Dieu veut, Dieu il va aider. D'accord? Deux secondes. Ça veut dire que chez nous, le plus important, c'est quoi? C'est d'agir. Ah, alors dans ce cas-là, pourquoi la teshuva sur une mitzvah négative est plus grave? Il dit, c'est très simple. Il te dit qu'en vérité, c'est clair, c'est évident, ce qu'on a expliqué ici, qu'une mitzvah positive est plus importante, et qu'en vérité, quand j'ai manqué une mitzvah positive, je ne peux pas vraiment récupérer. Alors pourquoi c'est plus difficile de faire teshuva sur une mitzvah négative? Il va expliquer ici, sur une mitzvah négative, c'est plus difficile de faire teshuva sur une mitzvah négative. Pourquoi? On va dire, c'est très simple. D'accord? On va dire parce qu'en vérité, quand on fait tshuva, hein, on fait tshuva sur le fait que quelque part, quand on fait une avera, hein, on est en train de se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Je reprends mon exemple. Imaginez-vous, il y a un, je t'ai demandé de mettre un coup de peinture et de ne pas salir. Hein, il n'a pas mis le coup de peinture et il a sali. D'accord? Deux choses. Donc il a pas mis le coup de peinture, ça veut dire qu'il n'a pas fait une mitzvah positive. Et il a sali, ça veut dire qu'il a fait une mitzvah négative. D'après vous, dans quel de ces deux actes, il a le plus montré qu'il n'en a rien à faire?
Deuxième.
C'est évident que c'est lorsqu'il prend le mur, il se met à le salir. Alors, ce qu'il a pas fait, il peut dire, bon, j'ai oublié, je vais être ailleurs, etc. Tu peux te défendre. Alors, si tu viens, tu prends, tu sales lui, on dit, attends, qu'est-ce que tu fais là? C'est pour ça que sur une mitzvah négative, c'est beaucoup plus difficile de faire teshuva. Pas parce que c'est plus grave. Parce que quand je fais une mitzvah négative, ça montre que je me suis, kaviachol, si on peut dire, je me suis plus révolté contre Akadosh Baruch Hu. Et il a oublié de mettre les tefilines, ça veut pas dire que c'est révolté contre Dieu. Il a oublié. On peut oublier, ça arrive d'oublier. Par contre, quand il vient, il transgresse. C'est un acte, c'est pas un oubli. Transgresse, ah, là c'est plus grave. Encore une fois, ça ne veut pas dire que dans l'absolu c'est plus grave. Dans l'absolu c'est pas plus grave. Au contraire, dans l'absolu c'est moins grave parce que ça peut se réparer plus facilement. Tu mets un coup de peinture, ça s'en ira. Le problème est surtout quand on fait teshuva également sur l'état d'esprit que j'avais au moment que je faisais la vera. Et là c'est évident que dans une mitzvah négative, l'état d'esprit que je fais quand je fais la vera, il est beaucoup plus grave. Et quand t'es en train de salir le mur, c'est beaucoup plus grave que si t'as oublié de mettre un coup de peinture. C'est la seule raison. C'est pour ça que faire teshuva sur une mitzvah négative, Sur ça, on te dit, il faut attendre Kippour. Pourquoi faut attendre Kippour? Parce que là, vraiment, tu as vraiment manqué de respect à Dieu. Pas seulement tu as oublié. Tu as fait le contraire à ce qu'on t'a demandé. Pas, on t'a envoyé faire une course, tu as oublié. Bon, ça arrive. Hein, on va tous faire des courses. Il a oublié. Non, là, il est parti, il a acheté le contraire. Il a fait exprès. Il a dit, attends, tu te moques de moi ou quoi?
Ça a l'air plus grave.
D'accord? Ah non. Justement. Dans l'absolu, c'est pas plus grave. Pourquoi c'est pas plus grave dans l'absolu? Parce que ça peut se réparer. Encore une fois, je répète. On te dit dans la vie, il faut mettre par exemple 20 000 coups de peinture. Voilà, t'as les filines, 20 000 coups de peinture. Mais non, tu n'as pas 1000 coups de peinture, tu ne peux pas le récupérer. C'est-à-dire que quand tu arriveras en haut, tu n'en auras que 19 999. Et il n'y en aura pas 20 000, il n'y aura jamais 20 000. Alors qu'une mitzvah négative, ça peut se réparer. J'ai salué le mur, on va faire la peinture, ça va partir. Une mitzvah négative peut se réparer beaucoup plus facilement qu'une mitzvah positive. Alors pourquoi c'est plus difficile à faire teshuva? Parce que quand on fait teshuva, on ne fait pas seulement teshuva sur le dommage qu'on a causé. Ça, c'est un grand chidouche que Morazaket va expliquer. Quand on fait teshuva, c'est pas seulement teshuva sur le dommage que j'ai causé, c'est également sur l'état d'esprit que j'avais au moment que je faisais l'avéra. Très très important à comprendre ça. Des fois, les gens, ils veulent faire teshuva, ils disent, mais avec tout ce que j'ai fait, comment ça faire teshuva? Je dis, attends. D'accord, tout ce que tu as fait. Quel état d'esprit tu avais quand tu as fait l'avéra? Est-ce que c'était un état d'esprit de révolte? Ou bon, simplement, t'étais pas religieux. T'as pas la tête à ça, t'as pas fait. Ça change tout.
L'esprit, il est le même quand tu mets pas les téléphilines le matin.
Non. Pas du tout.
Y a pas de réponse.
D'accord? Parce que peut-être quelqu'un qui n'a... Le fait de ne pas faire quelque chose, ça sera jamais aussi grave que faire quelque chose de mal. Tu l'as pas fait. Ça sera jamais aussi grave. Encore une fois.
Je connais des gens qui ne veulent pas circoncire leurs enfants.
Oui.
Par révolte vis-à-vis des catholiques. Ça, c'est terrible.
C'est très rare.
Alors, circoncire son enfant. Et deux mitzvot, la circoncision. Il y a une première mitzvah qui dit tu devras circoncire ton fils à 8 jours. Il y a une deuxième mitzvah qui dit on n'a pas le droit de rester un instant sans la circoncision. Donc là, tu as raison qu'effectivement, dans cette mitzvah-là, on a positif et négatif. C'est ce que je veux dire?
Par contre, pourquoi on
ne
fait pas la teshuva, on ne demande pas teshuva, pas teshuva tout de suite? Parce que sinon, il y a un risque de récidive. Plus tôt on l'a fait, moins on a un risque de récidive.
Non, alors ça, c'est encore une fois, ça, c'est une idée reçue, ça. Ça, c'est une idée reçue que l'Admor HaZaken va enlever par la suite. Le but de la teshuva, c'est pas d'enlever la récidive. Il va expliquer à l'Admor HaZaken que teshuva, c'est-à-dire qu'on retourne dans un kadosh. On va expliquer longuement. Là, je veux juste m'arrêter sur ces deux points-là. On a une mitzvah positive, une mitzvah négative. Faut bien comprendre ça. La mitzvah positive, c'est évident qu'elle est plus importante que la mitzvah négative, puisque le but du judaïsme, c'est quoi? C'est l'action. C'est pas la non-action, c'est l'action, le fait d'agir. Alors pourquoi c'est plus difficile de faire teshuva sur une mitzvah négative? Parce que quand on fait teshuva, on ne fait pas teshuva seulement sur le résultat de ce qu'on a fait. On fait teshuva également sur l'état d'esprit qu'on avait au moment où on a fait la avera. Et là, l'état d'esprit d'une mitzvah négative est beaucoup plus grave. Dans l'exemple de la peinture, on comprend bien. L'état d'esprit d'une avera, d'une mitzvah négative, c'est quelqu'un qui est en train de casser. Alors on se dit, bon, il a oublié. C'est pour ça que la teshuva est plus difficile. Et c'est pour ça que le seul jour qui peut pardonner, c'est Kippour. Pas parce que c'est plus grave. Parce que dans l'état d'esprit qu'il y avait, l'état d'esprit était plus négatif. Tu as une question, Yacob?
Oui, c'est pas grave, je viens chez toi et je te vole.
Oui.
Je te vole tout.
Oui.
Ça me paraît plus grave que si je ne mets pas les téléphilines une journée.
Que si
je ne mets pas les téléphilines une journée.
Alors, deux secondes. T'es venu chez moi, tu as volé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as transgressé une mitzvah négative.
Voilà.
Très bien.
Ça me paraît plus important, cet acte, que le fait de ne pas mettre les
téléphilines. Mais tu m'as volé, mais tu peux me rembourser. Bah oui.
Peut-être.
Tu peux rembourser.
Peut-être.
C'est quoi peut-être? Tu peux rembourser.
Le dommage,
tu peux le rembourser. Tu peux même rembourser plus. Si voilà, je t'ai volé 1000 euros, je te rembourse 2000. Laisse-moi tranquille. Bah, très content.
Oui, peut-être, mais peut-être que tu
vas peut-être. Avant
de me retrouver, ça, il va se passer 10
d'accord, ans. D'accord, bon, pas de problème. Est-ce qu'on peut réparer?
On peut. Pas sûr.
Non.
D'accord.
C'est pas sûr. Bien, tu as raison. On peut réparer. Potentiellement, tu peux réparer.
Bon, j'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Allez, on va simplifier.
D'accord.
J'ai tué quelqu'un.
Oui.
Je peux pas réparer. Voilà, tu parles de voler, voilà, j'ai tué.
Attends, alors on verra. Ça rentre dans une troisième catégorie de mitzvot, on n'a pas encore parlé.
J'ai pas dit tuer parce que c'est spécial.
Non, attention. Il y a une troisième catégorie de mitzvot, on n'a pas encore parlé.
Là, c'est Raya Mita et...
D'accord. Troisième catégorie, j'ai pas encore parlé. Là, pour l'instant, je suis dans deux catégories de mitzvot. Une mitzvot positive, une mitzvot négative. Après, il y aura une troisième catégorie, c'est une mitzvot sur laquelle on est Khayab Karet. On parlera après. Là, pour l'instant, l'Admor HaZaken a juste ouvert une parenthèse. Pour lui dire, attention. Les mitzvot positifs sont plus importants que les mitzvot négatives. La preuve, voilà, on a donné plein de preuves. La preuve, la mila repou shabbat, etc. Ah, pourquoi c'est plus difficile? Parce que l'état d'esprit est plus grave dans une mitzvah négative. Alors on va juste lire encore quelques lignes, pour finir la parenthèse. Après, si vous avez des questions. Donc, je vais reprendre à Ava le Inyan Tshuva. Vous avez la ligne qui commence Asher Kideshalou Mimitota. Ava le Inyan Tshuva, mais en ce qui concerne la Tshuva, pour une mise positive, Av Shemochalim Loa Onesh Al Meshemarad Malchutu Itbarer, même si Dieu dit bon, on te pardonne, on ne va pas te punir. On va pas te punir sur le fait que tu te révoltais contre Dieu. D'accord? Mikol makom, velo asama marmeler, mikol makom, a orne edar, vechoule. Mais, de toutes les façons, même si on va te pardonner sur le fait que tu as manqué de respect à Dieu, mais la lumière que tu devais faire descendre, le coup de peinture que tu devais mettre, il est pas là, et il sera jamais là. Ukma ma rabotelo zichonam libracha, comme le chachamim dit dans la Gemara Brachot, page 26, al pasuk, sur le verset de Kohelet, qui dit, meuvat lo yuchal litkon. Il y a un verset dans Kohelet dans lequel le roi Salomon il dit la chose suivante, il dit, dans le Kisselis, dans lequel le roi Salomon il dit, il y a des choses qui sont tordues qui ne pourront jamais s'arranger. Et la Gemara dit de quoi on parle? La Gemara dit, Zé Shebitel Kriat Shema Shel Arvit. C'est celui qui a oublié de lire Kriat Shema un soir. On s'attendait que celui qui tord quelque chose, non. Mais où va être le Yochalkon, dit la Gemara, c'est quoi? C'est celui qui n'a pas fait Kriat Shema de Arvit. Pourquoi? Imaginez-vous, il a oublié, il avait 15 ans. Et maintenant, jusqu'à la fin de sa vie, il ne ratera plus une seule fois le schéma. D'accord ? Pardon ?
C'est celui qui fait ou c'est celui qui croit que c'est facultatif ? Ah non, c'est la vie.
Non, c'est le schéma, là.
Ouais, le schéma.
D'accord ? Le schéma, c'est obligatoire. Ouais. Imaginez-vous, il a oublié une fois à 15 ans. Ouais. Une seule fois. Et après, dorénavant, jusqu'à la fin de ses jours, il n'a pas raté une seule fois. Il arrive avant, on dit, bon, ça va. Il dit non. C'est Av, Chéniz, Ar, Meata, Likrot, Kratchema, Chélarbit. Vécharek, Léolam. Même si dorénavant, il mettra tous les coups de peinture qu'il faut, jamais il manquera. En tshuvato moelet le taken mashibitel v'amachat. Jamais la teshuva, enfin en tout cas dans le niveau basique, pourra remplacer ce qu'il a manqué de faire. Sauf que la teshuva, pour la teshuva, je vais m'excuser à Kadosh Baruch Hu sur le fait que je lui ai manqué de respect en ne le faisant pas. Encore une fois, en faisant la teshuva, je ne veux pas refaire la mitzvah. La mitzvah, c'est fini, elle est perdue. La seule chose que je veux faire, hein, c'est qu'en faisant teshuva, je vais demander pardon à Kadosh Baruch Hu sur le fait que je lui ai manqué de respect en ne pas faisant la mitzvah. Mais c'est pas parce que je veux faire teshuva que je vais refaire la mitzvah. C'est pas parce que je veux faire teshuva Yom Kippour que c'est fini, on dit c'est comme si j'ai fait des mitzvahs toute l'année. On dit pas du tout, non, non, non. Ce que tu as fait, tu as fait. Donc, quand tu vas faire teshuva, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi sur le fait que je n'ai pas fait. Est-ce que tu n'as pas fait, t'as pas fait.
Ça paraît logique.
D'accord?
C'est évident, ce qu'on a passé hier. Ouais,
c'est un très très grand chidouche qu'il a de Mourazakan. Tu verras pourquoi.
On va le faire tous les jours.
Mais en même temps, comme tu dis, quelqu'un qui a raté une fois dans sa vie,
oui.
Ça, on peut considérer que c'est noyé dans...
Eh ben non, justement, voilà. Parce que il y a un quota de choses qu'on doit faire, d'accord ?
Oui.
Il y a un quota de choses qu'on doit faire.
Alors, ça voudrait dire finalement, si tu dis ça, c'est-à-dire que l'importance de tout le reste...
C'est quoi tout le reste ?
Peut-être 10 000 autres jours où j'ai fait création.
Oui.
Donc, ceux-là, donc, ils ont d'autant plus de valeur. Si une fois seulement, ça a autant de
d'importance,
c'est-à-dire que les 10 000 fois où je l'ai fait, ça...
Bien sûr. Mais t'as un quota, tu devais faire. T'as dit, tu dois en faire chaque jour, tu dois le faire. T'as pas fait, c'est fini, c'est trop tard.
T'as pas fait.
D'accord.
Cherche pas de...
D'accord.
T'as pas fait.
T'as pas de réponse, c'est là. Alors, encore une fois, Dieu va te pardonner. Mais ça veut dire quoi, pardonner?
Non mais tu peux pas le faire.
Il peut pas le faire, très bien. Deux secondes, non. C'est sûr qu'il peut pas le faire.
Il
peut pas le faire pour lui. Il peut pas le faire. Non, c'est pas autre chose. Il peut pas le faire. On lui dira rien. Très bien. Non, ça rentre dans mon quota, mais on te dira rien. Mais comme la Gemara dit, on te dira pas que tu l'as fait. Tu l'as pas fait. On te dira rien.
Moi, ça rentre même pas dans ton quota.
Ah non, ça marche pas comme ça.
Ça rend
dans le quota. Tout le monde a
pas le quota. C'est sûr que ça rend dans le quota. Celui qui est sous tranquillisant, qui
quoi?
À l'hôpital.
Ça rend dans le quota.
Dans le coma,
quand il va arriver dans le ciel, d'accord? Quand il va arriver dans le ciel. Ah, c'est vraiment... Non.
C'est évident. Tu peux dire ça. Celui qui n'est pas soumis à la mitzvah.
Pourquoi il n'est pas soumis?
Il
est dans le coma, il n'est pas soumis. Non, je parle. D'accord.
D'accord. Lui qui n'est pas parmi nous.
D'accord. Bah, je parle de quelqu'un maintenant qui est majeur, mais qui était pas, mais qui savait pas qu'il fallait le faire, ou il avait pas la tête à ça. C'est pas fait. D'accord? C'est pas fait. Et pas de problème, il arrivera en haut, on lui dira, bon, fais comme si qu'il n'y avait pas ces années-là. On oublie. Mais, d'accord? On va pas dire que pendant toutes ces années, il a mis les tefillines. D'accord? Du style, s'il a fait Tshuva à 20 ans et qu'il meurt à 80 ans, on dira, bon, les 20 premières années, on fait comme si qu'il s'est vécu que 60 ans. 20 premières années, il s'est rien passé. Mais, il a vécu 60 ans, pas 80. C'est ça? C'est-à-dire que là, on voit qu'une mise positive, par rapport à cet aspect-là, c'est beaucoup plus grave que mitzvah négative, parce que tu peux pas, tu peux jamais la récupérer. Une mitzvah négative, tu fais un dommage. Tu peux réparer. On peut toujours réparer. Mais une mitzvah positive, t'as un quota que tu dois faire. Chaque fois que tu manques, c'est fini, tu peux plus réparer, c'est ce que la Gemara a dit. Même si une seule fois j'ai raté, toute ma vie j'ai pas manqué, c'est fini, t'as raté, cette fois-ci tu pourras plus la réparer. Alors encore une fois, tu peux faire tes chouvas facilement. C'est facile à faire tes chouvas, parce que sur quoi tu fais tes chouvas? Tu fais tes chouvas pour t'excuser à Dieu sur le fait que tu ne l'as pas fait. Mais s'excuser, ça ne veut pas dire que Dieu te dit, ça y est, c'est comme si tu l'as fait.
Oui, mais c'est la même chose. Voilà, c'est comme par exemple, si tu fais une bêtise, ton père, au lieu de te frapper, il te dit, bon allez, tu dis, papa, excuse-moi, ok, il te pardonne. Mais c'est pas pour ça que si tu as mis le doigt dans le courant, tu as pris le coup de jus.
Exactement. Ça, le coup de jus, tu l'as eu, c'est fini.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Comme il dit, on avait vu dans le premier chapitre du Tania, il avait donné un exemple, il dit, c'est comme quelqu'un qui s'est sali. D'accord. Mais c'est fini, il est sale. Alors, une mitzvah négative, ça peut se nettoyer. Une mitzvah positive, ça peut pas se nettoyer. Va au vert al mitzvah klotase. Al yedesh mitbakara benafsho, osebgam lemala beshorsham okochadva. Attention. Quand on fait une mitzvah négative, on fait également un grand dommage. On fait un dommage à la source, la neshama, etc. Mais encore une fois, c'est pour ça que c'est difficile à réparer. Parce que quelqu'un qui fait une mitzvah négative, ça montre une certaine révolte envers Akadosh Baruch Hu. Il dit, je m'en fiche. Quelqu'un qui fait une avéra, qui sait que c'est assourd, qui fait une avéra, à ce moment-là, il est presque en train de se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que quelqu'un qui sait que c'est assourd, c'est beaucoup plus grave que quelqu'un qui ne savait pas. C'est parce que quelqu'un qui ne savait pas, il n'a pas l'aspect révolte. Il a l'aspect dommage. Ça peut se réparer facilement. Mais l'aspect le plus difficile à réparer, c'est l'aspect révolte. Quand je fais une avéra, je m'en fiche. Ça, c'est l'aspect le plus difficile à réparer. Et c'est ça le concept de la teshuvah, ce qu'il explique à Edmond Azakan. Avant les mots. Donc, Belvushin de Yutfirudasie, qui moi je connais que nous avons, le Vushin de Kinatlan, le Minoy Parin, le Chandil, le Nachachoule. Bon, ça, je ne m'arrête pas sur ça. L'écart, En Kapara le Nafsho, Velo le Mala, Adyama Kippurim. C'est pour ça que sur une zone négative, on doit attendre le jour de Yom Kippur. Kemo Shekatoub, comme c'est écrit dans la paracha Haremot, qui parle de la Teshuvah d'Yom Kippour, Vechiper à la Kodesh, Mitumot Bene Israël, ou Mipishrem. Que Akadosh Baruch Hu nous pardonnera de toutes les impuretés qu'on a pu avoir, et de toutes nos fautes. Qu'est-ce qu'il dit là-bas le verset? Il dit, Lifne Hashem Titaru. Devant Dieu, vous purifierez. Ça veut dire quoi, devant Dieu? Comme si que les autres mitzvot, c'est pas devant Dieu. Ce qui veut dire, c'est la chose suivante. Lifne Hashem Daika. C'est parce que le jour du Yom Kippour, la Neshama atteint un niveau que là, on te dit, bon, là, tu es devant le patron et là, il peut te pardonner. En d'autres termes, les autres jours de l'année, on ne peut pas accepter que tu t'es révolté contre Akadosh Baruch Hu. Et Dieu doit nous punir. Seulement, Dieu, il dit, bon, tu fais Tshuva, on met en suspens. En suspens jusqu'à quand? Jusqu'au jour du Yom Kippour. Qu'est-ce qui va se passer le jour du Yom Kippour? Le jour du Yom Kippour, on va te mettre face à face avec le roi. Et là, quand tu seras face à face avec le roi, la seule personne qui peut décider de te pardonner, c'est le roi. C'est le roi, c'est le roi. Et on dit que qu'est-ce qui se passe le jour du Yom Kippour? Le jour du Yom Kippour, le Ham Israël arrive à un niveau, écoutez bien ce que je vais dire, qui est plus haut que la Torah. Qui dépasse la Torah. C'est-à-dire que normalement, si on suit les règles de la Torah, et qu'une personne s'est révoltée contre Akadosh Baruch Hu, on ne devrait pas lui pardonner. C'est quoi si on ne le pardonne pas, il s'est révolté contre Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui se passe le jour du Yom Kippour? Le jour du Yom Kippour, on arrive à un niveau dans lequel Akadosh Baruch Hu, il dit, il va dévoiler un niveau, comme on expliquera après, chez Israël, qui est plus haut que la Torah. Donc il dit, même si, par rapport à la Torah, ben, c'est très grave ce que tu as fait, on a trouvé quelque chose de plus haut. On a des connexions, on est parti chercher ce qu'il y a plus haut. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que la misère négative est plus grave. Non. Ça veut dire que dans la misère négative, il y a un aspect de révolte contre Akadosh Baruch Hu qui est très très dur à enlever, et que la seule chose qui peut enlever, c'est le jour du Yom Kippour, dans lequel, à ce moment-là, la Neshama se trouve devant Akadosh Baruch Hu. Velachen, c'est pour ça. En l'ilmod mikan shum kula chatashalom mitzatase. Dis attention. De la braïta qu'on a enseigné ici, dans laquelle on a vu qu'il y avait, sur une mitzvah positive, rappelez-vous, la teshuvah est obtenue
tout de suite.
Et sur une mitzvah négative, on a dit la teshuvah est obtenue que à Yom Kippour. Tu dis, chasve shalom, il faut pas apprendre shum kula mitzatase. Il va dire, bon, mitzvah négative, faire attention, mitzvah positive, ça va, c'est pas grave. Non. Chas v'shalom. Ubifrat betalmud Torah, ve'adraba, amru rabotenu zichronel ivracha. Surtout dans une mitzvah comme l'étude de la Torah. Et on va dire, bon, le plus important, c'est de ne pas faire la véranda, pas transgresser le Shabbat. Ah, je ne dis pas la Torah, c'est pas grave, ça. Je fais rien, j'ai rien fait. Ah, les gens, c'est aujourd'hui, c'est à la mode. Je dis, j'ai rien fait, qu'est-ce que tu me veux? D'accord? J'ai rien fait? Non, ça veut rien dire que t'as rien fait. Je dis pas du tout. Va Adraba, écoutez bien ce qui amène la Gemara. Amrou Rabotenu Zichonam Livracha, Viter Akadosh Baruchu al Avodazara, Afshem Kritat Mitat Bedin, Velo Viter Talmud Torah. Que Akadosh Baruchu laisse passer, même la Avodazara, mais Akadosh Baruchu ne laisse pas passer Bitul Torah, c'est-à-dire le fait qu'on n'étudie pas la Torah, le fait qu'on aurait pu étudier la Torah qu'on n'étudie pas. Pourquoi, hein? Encore une fois, on revient au principe que l'Admor HaZaken a expliqué, que dans le judaïsme, peut-être dans d'autres religions c'est comme ça, qu'on te dit bon, ce qui compte, c'est d'être clean. Voilà, clean. Ils appellent ça être clean. Ça veut dire quoi être clean? Irreprochable. Moi, j'ai rien fait. Un judaïque, c'est pas bon, ça. Faut pas être irreprochable. Il faut être reprochable. Si t'es pas reprochable, c'est un problème. Il faut avancer. Il faut agir. Le plus important, c'est d'agir. Ah, pourquoi c'est plus difficile de faire tes chevaux sur une idée négative? Parce que, il y a l'aspect révolte, comme ce qu'on a pu expliquer. Donc là, c'est les deux premières catégories qu'on a de mitzvot. Première catégorie, mitzvot positive, on obtient la tshuva instantanément. Mais ça veut pas dire qu'on a récupéré l'acte qu'on a manqué. C'est pas récupéré, mais bon. On obtient la tshuva sur le manque de respect qu'on a eu envers la tshuva. Et d'un autre côté, on a une mitzvah négative. C'est comme, imaginez, on va donner un exemple. C'est comme vous avez un homme et une femme qui sont accrochés.
Ça arrive jamais.
D'accord? Ça arrive jamais. Bon. Il y a deux choses qui peuvent se passer. Première chose qui s'est passée, la femme, elle a envoyé son mari faire des courses, il a oublié quelque chose. Il avait une liste, il a acheté, il en a donné 30 produits, il en a acheté 29. Non. Elle va l'excuser facilement.
Non.
D'accord. Et bon, ça va, t'as oublié, la prochaine fois t'oublieras pas. Mais bon, ça change pas qu'à la maison, il y a combien de produits qui sont arrivés? 29, pas 30. Mitzvah négative, c'est comme si le mari a manqué de respect à sa femme. Il est venu, il a manqué de respect, il a blessé sa femme. Ah, il a oublié, il a blessé. Alors ça, comme il s'explique ici l'Admor HaZaken, en vérité, par rapport à Kadosh Baruch Hu, en vérité, c'est moins grave, parce que le plus important, c'est d'agir. Seulement, pourquoi c'est plus difficile à se faire pardonner? Parce que, quand tu as manqué de respect, il y a eu un aspect de révolte beaucoup plus grave, et que, envers Kadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus grave ce que tu as fait. Ça exprime un état d'esprit beaucoup plus grave. Mais encore une fois, ça n'enlève pas que dans le judaïsme, le plus important, c'est l'action. Pas d'être clean, irreprochable. Le plus important, c'est l'action. Ça, c'est les deux premières catégories de mitzvot. Troisième catégorie de mitzvot. Vous savez, je pars un peu vite parce que c'est une parenthèse, tout ça. Avar, je suis 5 et demi avant la fin de la page. Avar, al-kritot ou mitzvot bedin. S'il a transgressé sur une avera sur laquelle on est chayav karet, par exemple.
Tu es
mort.
Tu es
battu. Par exemple.
Idolâtré.
Par exemple, celui qui... Non, c'est Shabbat, c'est pas Khayav Karet. Il est Khayav Mita. D'accord? Celui qui a mangé le Khamet pendant Pessah. D'accord? Encore un autre exemple. La Mila, très bien, celui qui fait la Mila à son enfant, c'est Khayav Karet. D'accord? Encore un autre exemple. D'accord? Ou Mitot Beddin. La Averot sur lesquelles. Donc Karet, ça veut dire qu'il meurt avant 60 ans.
Ah, c'est pas retranchement?
C'est ça. C'est-à-dire qu'il est retranché du peuple. Ça veut dire qu'il est retranché et donc il meurt avant 60 ans.
Il est mis de côté?
Non. Elle est mise de côté par Dieu.
D'accord, ça veut dire quoi alors?
Ça veut dire que les hommes, ça veut dire que le tribunal d'en bas ne peut rien faire. Ça c'est karet. Mitat Beddin, c'est lorsque le Beddin va le mettre à mort. Par exemple, s'il a transgressé le Shabbat. Par exemple, s'il a tué quelqu'un. Par exemple, l'adultère. Dans tous ces cas-là, s'il était prévenu et qu'il savait la gravité de ce qu'il faisait, il est mis à mort.
L'adultère pour la femme.
D'accord. L'adultère avec une femme mariée.
Pour la femme.
Pour les deux. Bien sûr, les deux sont mis à mort.
La mort.
D'accord? Oui, les deux.
Si l'homme est marié et que la femme n'est pas mariée, il n'y a pas de doute.
Non. Et la femme, et puis il faut que la femme soit mariée. D'accord? Donc, Avar al-Kritot ou Mitot Vadin, donc rappelez-vous, il y a deux premières catégories qu'on a expliquées. Première catégorie, Mitot positive. C'est la plus facile à faire teshuva. D'accord? Parce qu'il y a l'aspect le moins, il n'y a pas beaucoup de révolte dans ça. J'ai oublié. Deuxième, d'accord? C'est Mitot négative. Là, t'as pas oublié, t'as fait. J'ai agi, j'ai blessé quelqu'un. Et là, le troisième, c'est « j'ai pas blessé, je l'ai tué, tu l'as mis à plat ». Comment? Voilà, j'ai fait une misette sur le cas Khayav Karet. Dans ce cas-là, c'est quoi le din? Dit la Mishnah dans Yoma, la Braïta dans Yoma, « Tshuva ve Yom HaKippurim tolin »« La Teshuva et Yom HaKippurim »« La Teshuva et Kippurim » le mettre en suspens. C'est-à-dire qu'il va faire Teshuva sur place, ça c'est sûr. Hein, c'est pas qu'il dit « j'attends Yom Kippur, on verra, non. » Il va faire Teshuva sur place, et il fera autant de Yom Kippur qu'il faut jusqu'à sa mort. Mais ça, c'est simplement pour le mettre en suspens. On dit, bon, on te fait rien. Mais qu'est-ce qu'il va pardonner? Qui c'est qui va le pardonner? D'accord? Veillez sourine, ve memarkin. La seule chose qui va le pardonner, c'est quoi? C'est les souffrances. Alors, souffrance, on peut avoir beaucoup de souffrances. On peut avoir, une des souffrances peut être la mort, mais ça peut être aussi les souffrances personnelles. C'est-à-dire qu'il y a des avérotes, les relations, d'accord, sur lesquelles on se fait punir par les souffrances d'Akadosh Baruch Hu. Les ça peut être avant, ça peut être après, ça peut être pendant.
C'est possible, c'est avant, parce que
d'accord.
C'est
il n'y a pas de principe. Mais attention, les souffrances, c'est pas nous qui les décidons. C'est pas je décide, bon, maintenant je vais me faire souffrir. Non, c'est Dieu qui décide. Ça expliquera après.
Ça, c'est, attends, ça, excuse-moi, c'est pour Rayav...
Rayav Karet.
C'est pas pour Mita. Non, non.
Les deux, Rayav Karet et Rayav Mita. Dans les deux cas, quand il est Rayav Karet et Rayav Mita, d'accord, la Teshuva et Yom Kippour le suspendent. Et qui c'est qui va conclure? C'est les souffrances. Donc la mort peut être une souffrance aussi. C'est les souffrances en général.
Oui, mais
alors, Karet, écoutez bien.
C'est pas le Beldin,
c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, écoutez bien. C'est important la question. Regardez la parenthèse. Il dit, c'est écrit, Veyi souris, Memarkim. Les souffrances, Memarkim. Les marek en hébreu, ça veut dire quoi? Quand? Les marek en hébreu, t'as avec nous, Youssef? Hein? Les marek en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a le Tania sur l'iPhone 4. Hein? Ah, c'est bien ça. Comme sur la... Je la montrerai la dernière fois. Alors, c'est quoi les marek? Les marek en hébreu, ça veut dire nettoyer. Ça veut dire comme ça, les souffrances vont nettoyer. Très très important ce qu'on est en train de dire ici. C'est la Mishnah qui dit ça. D'accord? Ça veut dire comme ça. C'est pas du style, imaginez-vous, voilà, un mari qui a blessé sa femme grave de chez grave. C'est pas que la femme va dire, bon,
sur les 30 courses, c'est...
D'accord? Elle dit pour te rattraper, tu vas m'amener en vacances, etc. Mais les vacances ne vont pas réparer ce qu'il a fait.
C'est une souffrance quand même.
D'accord? Attends. Là, chez Akadosh Baruch Hu, les souffrances nettoient. Ça veut dire que la souffrance, Dieu ne fait pas souffrir comme Dieu ne punit pas pour punir. Ça n'existe pas, ça, chez Akadosh Baruch Hu. Vous me suivez? Dieu ne punit pas pour punir. Chez Akadosh Baruch Hu, la punition est déjà réparation. Comme l'exemple, je vais vous donner un exemple il y a quelques mois. Par exemple, quand on est à l'école, on a fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Le prof, il va me dire, tu écriras 100 fois, tu me ramèneras une punition, tu écriras 100 fois, je ne manquerai pas de respect au professeur. Donc je vais rentrer chez moi à la maison, je vais écrire à chaque fois avec une autre couleur, hein, en bleu, en rouge, en noir. Vous en faites à l'école?
Vous voyez déjà comment c'est fait. Punitions, toi, quand
même. Donc il fait... Bon, il rentre chez lui. Non, je vous pose la question. Est-ce que la punition va réparer le mal que l'enfant a fait? C'est-à-dire, est-ce que quand l'enfant va écrire, il va dire, ah oui, c'est vrai, c'est pas bien ce que j'ai fait, et je dis pardon au professeur.
Au contraire, il va pester davantage contre le prof.
Au contraire, il va être en train de maudire le professeur qui a dit la punition. Sauf que quoi? Pourquoi le professeur il fait ça? Pour le dissuader de recommencer. Hein, on arrive à ce que vous avez dit tout à l'heure. Et comme ça, la prochaine fois, avant de me manquer de respect, tu réfléchiras. Quoi. L'année prochaine, quand tu auras un nouveau prof, tu pourras re-essayer si tu veux. Mais là, cette année, avec moi, attention à toi.
Mais quand c'est dur, d'accord, on ne sait pas toujours c'est pourquoi qu'on est puni.
Alors voilà, justement. C'est que quand on punit, c'est que chez les hommes, quand on punit quelqu'un, pourquoi la punition n'est pas forcément réparatrice. La punition, ça peut être des fois simplement pour
prendre conscience.
Prendre conscience, d'accord, peut-être, prendre conscience, et surtout pour pas qu'il recommence. Chez Akadosh Baruch Hu, une punition est réparatrice. Une punition nettoie. Quand, par exemple, Akadosh Baruch Hu dit qu'une personne qui a transgressé le Shabbat sera mise à mort, c'est pas une vengeance. Tu dis, ah, il a manqué de respect, on va le tuer, il va voir. Non, c'est une kapara, c'est le pardon. Parce que la seule chose qui peut le pardonner, cette personne-là, c'est la mort. Donc, on lui donne ce qui peut le pardonner. Ça le nettoie. C'est-à-dire que la mort, c'est pas une punition. C'est une punition qui nettoie. C'est ce qu'a dit la Mishnah. Veyissourin memarkin. Les souffrances, cette personne-là, vont le nettoyer.
Si c'est pour refuser.
Si c'est. Si j'essaie
pour refuser.
Hein, peut pas refuser.
Peut pas le forcer à faire un cas.
Est-ce que quelqu'un peut refuser d'être juif? Il dit, moi je suis pas juif, laissez-moi tranquille.
Non mais il peux pas le forcer.
D'accord, essayez.
Eh bien, imagine-toi maintenant quelqu'un, il est né dans une famille religieuse cachère, etc. Il sait que c'est la source de commencer le Shabbat. Un jour, il décide, il a 30 ans, il décide, allez, j'en ai marre d'être. Ouais, à pomper. Il lâche tout. Il sait que c'est la source. Il transgresse le Shabbat. Le Bedin, il vient, il prévient, il dit, attention, monsieur, c'est la source, une fois, deux fois, trois fois. Il transgresse, tranquille, il en a rien à faire. Qu'est-ce qu'il va faire, le Bedin? Il va le mettre à mort. Il dit, mais attendez, je vous ai rien demandé, moi, j'ai pas envie, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie d'autre religion, laissez-moi tranquille.
Et j'ai pas envie d'être réparé.
Je veux pas être réparé, laissez-moi tranquille, je veux vivre tranquillement, on verra en haut ce qui va se passer. On le met à mort. Ça n'existe pas, on n'est pas indépendant, on fait pas ce qu'on veut. C'est ça?
Ouais,
c'est quand?
Pas tout de suite, laissez-moi
Non, on te donne pas le choix.
C'est un gros d'accord réparé une fois pour toutes, mais laissez-moi
encore une fois, bien sûr, je sais que c'est à tour. Alors, Ça, c'est ce qu'explique l'Admon Razaken. Un point très important. Donc, la troisième catégorie d'Averod, c'est quoi? C'est des Averod, rappelez-vous, qui ne peuvent être nettoyés que par
la punition.
Mais attention, nettoyer, c'est ce qu'il dit l'Admon Razaken en parenthèse. Pirouche, ça veut dire Gomrim Akapara. Ça veut dire que la souffrance va terminer le pardon. Veum ilachon merika ushtifa. Ça veut dire que c'est les souffrances qui vont nettoyer. Qui vont nettoyer l'âme.
Tu acceptes ou pas?
Pas besoin. Il acceptera en haut.
Pas ou pas.
D'accord? Ça change pas, il n'a pas besoin d'accepter. Qui capara pourrait l'accepter avant de descendre?
Oui.
Non? Vous ne voulez pas descendre?
Neshama,
ah non, il ne veut pas descendre.
On
la force à Neshama à descendre. Elle n'a pas accepté, je ne vous ai rien demandé, je rejetais bien en haut.
C'est un guibou,
qu'est-ce qu'il dit dans le Pirkei Avot? Il dit Al-Kochar Atacha et Al-Kochar Atamet. Contre ton gré, tu vis, et contre ton gré, tu meurs. J'ai pas décidé de vivre.
Oui.
Non, mais c'est pas oui, c'est oui.
Ah, c'est pas même. Non, c'est pas pareil. Hein?
Je suis d'accord avec la Cephal, mais pas avec la Richard.
Oui. Tu comprends? Enfin, bref.
Bon, quoi qu'il en soit. Alors, Ve'u, le tsartseach nefesh, qui capara, ou la chaîne qui noire. Là, de Mourazaka, il me dit un grand scoop. Il dit capara en hébreu, ça veut dire quoi?
Préparation.
D'accord? Eh non, une erreur. D'accord? Kapara en hébreu, ça veut dire quoi? Kapara, ça veut dire quoi en hébreu? Comment on traduit kapara en français?
Sacrifice?
On traduit kapara en général par pardon. C'est une erreur. D'accord? La vraie traduction de kapara, c'est nettoyage.
La réparation, c'est nettoyage.
Nettoyage. Ah, attention.
Kapara, c'est
nettoyage.
C'est pareil que réparer.
Je demandais la traduction.
Ou
la chaîne qui noire, chez mekaneach l'ichlou haret. C'est quoi la capara? Capara, ça veut dire qu'on va enlever la saleté de la vera. Et ça veut dire qu'encore une fois, quelque chose de très très important que va expliquer l'Admon Razaken ici. Dans toutes les trois catégories d'averot qu'on a dit ici, c'est pas que Akadosh Baruch Hu dit bon, pour ça ta vera, tu m'as manqué de respect comme ça, alors tu fais, je fais une petite punition pour celle-là, une grande punition pour celle-là, une très grande punition. Non. Quand on fait une teshuva, la teshuva doit réparer ce qu'on a fait. Encore une fois. Teshuva en hébreu, ça se traduit comment? Comment on traduit teshuva? Comment on traduit teshuva? Comment on traduit en français?
Un repentir.
Non, aujourd'hui, ce matin. Teshuva, il vient de traduire aujourd'hui par repentir. Ouais, les trois éléments clés de Rosh Hashanah et Kippour, c'est quoi? C'est teshuva, tfila, zaka. Teshuva, c'est quoi? On a dit, on traduit par repentir. Tfila, traduit par la prière. Zaka, c'est
charité.
Les trois traductions que je viens de donner sont fausses. C'est des traductions chrétiennes. Les trois. D'accord? Je commençais par Tfila. Tfila en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire prière.
Lié.
Ça veut dire attachement. Ça change tout.
Oui, c'est vrai.
D'accord? Parce que quand tu dis prière, ça veut dire quoi? Prière en hébreu, en français, ça veut dire quoi prière?
Demander.
D'accord? C'est-à-dire que moi je reste en bas, toi tu restes en haut, ouais. Moi je vais te prier, je vais te demander quelque chose.
C'est pas
du tout ça la prière. C'est pas ça la tfila. La tfila, c'est on essaye de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, de parler à Kadosh Baruch Hu, on essaye de monter vers Kadosh Baruch Hu. Ça n'a rien à voir.
Quand même, on lui fait des demandes. Hein.
D'accord. Sûr.
Littéralement.
Mais on fait des demandes, on essaye de monter en haut, on essaye de s'améliorer. C'est pas que je reste en bas, je dis bon, je suis là, on voit.
Rappelle-toi la sujet.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Prière, ça veut dire je reste en bas, envoie-moi. Attachement, ça veut dire j'essaye de monter en haut. Ça n'a rien à voir. Tzedaka, on a traduit tout à l'heure par charité. La vraie traduction de tzedaka, c'est tzedek. Tzedek en hébreu, ça veut dire quoi?
Justice.
C'est quoi la différence entre justice et charité? Encore une fois, ça change tout.
Charité, c'est l'impression que c'est moi qui fais le bien.
Charité, c'est quoi? C'est bon. Ça en bas, t'as pas d'argent, je vais te faire plaisir. Moi, je suis gentil, je vais te faire kiffer, je te donne. Ça, c'est charité. Des actes charitables. Justice, c'est pas ça.
Que ça vient de tout.
C'est normal. C'est normal, je dois te donner, c'est normal. D'accord? Regarde encore une fois qu'on se met la traduction. Et enfin Teshuva, puisqu'on en est dans les guérettes à Teshuva. Teshuva, on traduit par repentir. D'accord? Alors qu'en vérité, la vraie traduction de Teshuva, c'est retour. Quelle est la différence entre repentir et retour? C'est très simple. D'accord? Quand je dis repentir, ça veut dire quoi? C'est chrétien. C'est pas repentir. C'est-à-dire que bon, j'ai pas fait exprès, je m'excuse, je recommencerai plus. D'accord? Je demande pardon. Mais je reste où je suis. Je recommencerai plus, je reste où je suis, tu restes où tu es, je demande pardon, je recommencerai plus. Je demande pardon. Hein, chez le... Bon. Je demande pardon. D'accord? C'est pas du tout ça dans le judaïsme. Ça, c'est pas teshuva. On dit, ça sert à rien, tu vas recommencer. Tu reviendras l'année prochaine, tu vas me redemander. C'est du pipeau. Et tu crois, tu fais d'avérante. C'est-à-dire qu'il fait d'avérante. Mais il sait qu'il va aller chez le prêtre tous les quelques jours, les quelques mois ou les quelques ans, selon sa fréquence d'avérance, d'accord, pour demander un rapport, d'accord. C'est ça, hein, il sait très bien qu'il va refauter. C'est pas ça, teshuva. Teshuva en hébreu, c'est retour. Ça change tout. C'est-à-dire que quand on fait teshuva, on retourne vers Akadosh Baruch Hu. Écoute, je me suis éloigné, je retourne. Là, ça change tout. C'est pas que je reste où je suis et que bon, on remet à zéro et on verra pour la prochaine fois. Pas du tout. J'essaye de retourner. Et chaque fois qu'on fait teshuva, on doit être différent. C'est une nouvelle teshuva. Je retourne vers Akadosh Baruch Hu. J'avance vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il dit l'Admor HaZaken ici. D'accord ? Qu'est-ce qu'il dit l'Admor HaZaken ? Il dit c'est quoi teshuva ? C'est quoi le concept de la teshuva ? Le concept de la teshuva, c'est de retourner vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça la teshuva. Et c'est pour ça que dans certains cas, la seule teshuva, la seule manière de retourner vers Akadosh Baruch Hu, c'est par, dans la troisième catégorie, c'est quoi ? C'est par la mort, par les souffrances. Pourquoi ? Parce que Dieu te dit, écoute, c'est bloqué, tu peux pas retourner. La seule manière de retourner, le seul nettoyage que tu peux avoir, c'est quand tu vas souffrir. Parce qu'on dit que les souffrances, ça nettoie une personne. Souffrance, ça nettoie une personne. Comment on expliquera après ?
Je ne comprends pas la phrase de nettoyer la saleté du péché. C'est bizarre comme...
Encore une fois, nettoyer la saleté du...
Hein. Le péché doit être propre.
Non, encore une fois, c'est un point très important, c'est une question importante que tu poses. Encore une fois. Les gens pensent que quand on fait teshuva, d'accord, on va réparer le mal qu'on a fait. C'est une erreur. Parce que le mal qu'on a fait, on ne peut pas le réparer. Ça ne se répare pas, un mal qu'on a fait. En vérité, même dans une mise à négative, ça je ne vais pas rentrer dedans, même on ne peut pas vraiment réparer le mal. C'est pas ça teshuva. C'est pas du tout ça teshuva. Les gens, ils pensent une fois par an, on va faire teshuva, c'est-à-dire on efface tout, on reste à zéro. Mais comment t'effaces tout ? Où t'effaces tout ? T'as fait le mal, t'as tout cassé. Qu'est-ce que tu vas effacer ? Quelqu'un, il embête sa femme toute l'année, une fois par an, il demande pardon, ah ça y est, pardon, c'est fini, c'est rien passé. Mais quoi, pardon ? Tu l'as blessé ? Tu l'as blessé à l'intérieur. Enfin, ça y est, demander pardon, c'est fini. Ça marche pas comme ça.
D'accord.
Maintenant, en vacances une fois par an, elle croit que c'est fini. On oublie tout. Pas du tout. Elle est blessée à l'intérieur. Ça marche pas comme ça. C'est pas ça, teshuva. Teshuva, ça veut pas dire qu'on répare le mal qu'on a fait. Teshuva, ça veut dire qu'on répare l'état d'esprit dans lequel on s'est mis. La personne, quand elle a fauté, elle s'est mise dans un état d'esprit de révolte contre Akadosh Baruch Hu. Alors, quand c'était une mitzvah positive, l'état d'esprit de révolte n'était pas très grand. Bon, j'ai oublié de faire les courses. J'ai oublié. Bon. C'est facile à réparer. D'accord ? Quand j'ai agi, j'ai fait une mise à négative, là c'est plus grave. Là c'est plus difficile à pardonner, il n'y a que même pour qui peut pardonner. Mais il y a des avérotes tellement graves, du cycle quelqu'un qui a tué quelqu'un ou qui a transgressé le Shabbat, c'est tellement grave que ça on te dit, tu ne peux pas te faire pardonner. Tu peux pas. La seule manière de te faire pardonner, ça veut dire c'est quoi pardonner ? Ça veut dire de t'excuser auprès d'Akadosh Baruch Hu pour le fait que tu t'es révolté contre lui, c'est quoi ? C'est par la souffrance. D'accord ? Ça veut dire que ça ne va pas réparer le mal qu'il a fait.
C'est pas la souffrance pour la souffrance. C'est
pas non.
De la souffrance, il va y avoir une...
Oui. Alors on va expliquer après, c'est une bonne question. C'est-à-dire, la question que tu... Enfin, en d'autres termes, la question qui nous dérange, c'est pourquoi la souffrance, elle nettoie une personne ? Pourquoi, par exemple, tu ne dis pas, bon, ben, quelqu'un qui a fait une avéra, pourquoi tu veux me faire souffrir ? Dis-moi, étudie 100 pages de Gemara. Voilà, ça peut être une souffrance, vas-y, bon. Pourquoi...
Je réponds ici.
D'accord. Pourquoi tu dois me faire souffrir ? Pourquoi il faut que mon corps, il souffre ? Ça, on expliquera après. On expliquera après que comme dans la Vera, le corps a participé, le corps doit également souffrir. Parce que le corps doit également être nettoyé. Ça, on expliquera après. Pourquoi ça doit passer par ça ? Quoi qu'il en soit. Mais ce que l'Admor HaZaken veut expliquer ici, c'est que le but de la Teshuva n'est pas de se repentir et de dire, bon, voilà, j'ai payé, laissez-moi tranquille. C'est pas du tout ça. C'est pas ça.
Non, pas repentir.
D'accord ? D'accord ?
On va bénir les
Retour
termes. Ah, bon, d'accord, on va bénir les termes.
D'accord ? Teshuva, c'est retour vers Akadosh Baruch Hu. C'est pas du style, bon, j'ai fauté, mais j'ai payé. Voilà, j'ai fauté, ben, le mois des loups, je me suis levé pendant un mois au Slichot, j'ai payé, qu'est-ce que tu me veux maintenant ? Non, pas ça.
Ah, c'est tout, d'accord ? C'est facile.
C'est pas ça, Teshuva.
C'est pas si facile.
D'accord ? Non, c'est pas ça, écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est pas ça, Teshuva. Teshuva, c'est pas j'ai fauté, j'ai payé. J'ai fauté, j'ai payé. J'ai fauté, je me suis quitté. C'est pas ça, Teshuva. Teshuva, c'est retourner. Ça veut dire qu'on peut avoir une personne, qui s'excuse, arrive Rosh Hashanah Kippour, il s'excuse, il dit Dieu, je suis désolé, je n'ai pas fait exprès, etc. Mais il n'a pas fait teshuva. Pourquoi il n'a pas fait teshuva ? Parce qu'il compte recommencer. Ce qu'il va expliquer après.
D'accord ?
Hein ? La teshuva, ça peut se faire en une fraction de seconde. Pourquoi ? Parce que c'est quoi la teshuva, comme on va expliquer tout de suite dans ce chapitre. C'est quoi la teshuva ? La teshuva, c'est décider de changer. décider de retourner. Ça, c'est la teshuva. Tout le reste après, c'est du bonus. Tout ce qu'on peut rajouter après, on l'expliquera après dans la suite. Les korbanot à l'époque, les sacrifices, la tzedaka, tout ce qu'il peut avoir autour, c'est des bonus pour améliorer la teshuva.
Oui, on demande le pardon quand même.
D'accord. Voilà. C'est pourquoi demander le pardon.
On a fait de la peine à Hachem. On...
Alors, ça veut dire quoi demander le pardon?
Oui, ça veut dire quoi?
Oui.
Qu'il nous pardonne.
Il nous pardonne quoi?
Le
nous pardonne la vera. Ou lui pardonne l'état d'esprit dans lequel on s'est mis. Alors si tu dis qu'il nous pardonne la vera, dans ce cas-là, c'est très facile. Je faute toute l'année, je paye une fois par an, tu me laisses tranquille. Bon.
Non, ça y est, j'ai payé. C'est l'état d'esprit.
C'est l'état d'esprit. Or, pour pardonner l'état d'esprit, faut quelqu'un, une femme va pardonner à son mari, elle va dire, je te pardonne, mais si tu montres que tu es sincère, tu vas pas recommencer. Et tu crois que tu viens avec un bouquet de fleurs, mais tu fais un sourire malicieux, que tu vas recommencer le lendemain. Non, garde ton bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, comme on va expliquer après, c'est seulement une fois que tu le montres que tu vas pas recommencer. Là, tu as amené le bouquet de fleurs pour dire, bon, pour te montrer que vraiment je suis sincère, voilà le bouquet de fleurs. Bon, bouquet de fleurs, c'est un bonus. Mais ce qui compte, c'est pas le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, c'est un bonus. Ce qui compte, c'est de lui montrer que tu es sincère. C'est la même chose à Teshuva. Le plus important dans la Teshuva, c'est la sincérité. Après tout le reste, tout ce qu'on va rajouter, les slichot, etc., c'est des bonus. C'est des bonus pour montrer qu'on est sincère. C'est des bouquets de fleurs. Voilà, je t'amène le bouquet de fleurs. Mais c'est pas le bouquet de fleurs qui pardonne. Pas parce que tu fais pas ce que tu veux, après t'as mis un bouquet de fleurs, c'est fini, on t'a pardonné. Non. Le bouquet de fleurs, c'est une fois que tu t'es excusé sincèrement et que tu montres que tu vas pas recommencer, là t'as mis un bouquet de fleurs pour essayer de remettre les choses comme avant.
Bon. Oui, restaurer.
D'accord. De réinstaurer le climat. C'est tout. C'est ça la teshuva. La teshuva, c'est pas le bouquet de fleurs. La teshuva, c'est l'état d'esprit dans lequel je dis, c'est pas bien ce que j'ai fait, je vais m'améliorer. C'est pas bien ce que j'ai fait, je vais m'améliorer. D'accord. Et ça, alors, ça nous a l'air facile, mais c'est en vérité, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Parce qu'on peut, comme je dis, on peut passer tout Rosh Hashanah à Kif pour faire les Sichot, etc. S'excuser sur ce qu'on a fait, mais sans réellement penser ne plus recommencer. Dans ce cas-là, c'est pas une Teshuva. Ça, Teshuva.
Donc ça veut dire que celui qui fait une Teshuva, forcément, il va souffrir.
Non. C'est si. Shalom. Non. Pas
si.
Du tout.
Si.
Une teshuva sur quoi? Sur une la troisième catégorie, Averot de catégorie C?
Non, quelqu'un qui a fait des fautes, tu dis d'affaires avec son corps, pas forcément il va souffrir.
Non, pas forcément.
Il va avoir des
souffrances. Non, dépend si ça, si, seulement si c'est la troisième catégorie.
Oui, c'est mais vraiment alors, si c'est... Oui,
catégorie de
troisième catégorie.
Oui, ouais. On verra après, les pertes nocturnes, c'est catégorie C.
C'est du lourd, c'est plus lourd, elle a dit.
Hein?
C'est du lourd, oui, il n'y a pas de
problème. Attention, alors bon, on verra après que... On demande quand même à Kadosh Baruch Hu, vous savez, dans le Kriyat Shema tous les soirs, hein, il y a un Yératin qu'on dit juste avant de faire le Kriyat Shema, dans lequel on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner Loa Yede Isurim Vacholaim Brahim.
Sans épreuve.
Sans passer par les épreuves. Parce qu'on verra après qu'il y a des manières de demander à Kadosh Baruch Hu que Kadosh Baruch Hu peut le faire sans passer par les épreuves. Mais bon, il y a des fois où il n'y a pas moyen. Encore une fois, parce que le but de la Teshuva, c'est quoi? C'est de retourner vers la Kadosh Baruch Hu.
Il y a des catégories de fautes. Quand? De toute façon, on doit prendre. Il arrive.
Le but de la Teshuva, c'est de changer.
D'accord. Donc
et là, il y a des fois, une personne a tellement fait une. Il a tellement fait d'Averot, je lui ai dit, écoute, je peux pas te changer. La seule manière pour toi de changer, c'est de mourir.
Oui, vous savez, souvent.
Tu vas mourir, tu vas être une nouvelle personne. Ou de la souffrance. Tu deviendras une nouvelle personne.
Oui.
On expliquera après, vous exactement. On va tout expliquer.
Même si Hachem, il veut t'éviter les souffrances, il peut pas, pour ton bien, puisque comme t'as fait des Averot avec ton corps, il est obligé de passer par là, il va pas faire un miracle pour t'éviter ton corps.
Il dit, je veux bien t'excuser, mais t'es pas retourné vers moi. T'es pas retourné. D'accord. Alors. Chez Neymar, comme c'est écrit. Alors, chez Neymar, comme c'est écrit. Vous savez, chez Neymar?
Daniel.
Chez Neymar, comme c'est écrit. Ufakati beshevet pisham. Uvinegaim avonam. Donc, l'Admor Hazakel amène une preuve ici. Sur ce qu'il a expliqué. Que les épreuves. C'est pas une punition pour punir. C'est pas du fait, t'as fait une bêtise, je te punis. Les épreuves nettoient la personne. D'où on sait, c'est écrit dans Tehilim, d'accord, dans le psaume 89, c'est écrit « Ufakati beshevet pisham » Dieu dit « Je me souviendrai de leur faute avec le bâton » C'est-à-dire que comment il va les réparer avec le bâton ?« Uvinegaim avonam » Et avec les plaies, chas veshalom, c'est comme ça qu'il pardonnera avonam leur faute. Donc de là on voit clairement que pourquoi Kadosh Baruch Hu envoie les épreuves, c'est uniquement pour pardonner, d'accord, et pour effacer la verrote. Atkan, Lashon, Abraïta. Juste ici, c'est ce que l'Abraïta a dit.
Donc, ça,
ça, c'était seulement une introduction.
C'est une forme d'affection, quand même.
Ah, non, juste, on va pas perdre le... Ça, c'était seulement une introduction. C'est ça, parce qu'avant de se lancer dans le sujet de la Teshuvah, il faut d'abord voir ce que dit la Gemara. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara nous a amené trois catégories. Trois catégories de mitzvot, de averot, pardon. D'accord? On a expliqué que c'est pas forcément qu'une est plus grave que l'autre. C'est seulement, la seule différence entre les averot, c'est au niveau de l'état d'esprit que j'avais, que plus on avance et plus l'état d'esprit est grave. Très bien. On est d'accord sur ça? Tout le monde est d'accord jusqu'ici? Ok. Maintenant, il continue. Iné. Donc là, on est à la page. Iné. Mitzvah tachuva minatora iaziva tachet bidvat. Ah, il va amener un grand scoop. Il dit, c'est quoi la mitzvah de la teshuva selon la Torah? Alors, c'est quoi la mitzvah de la teshuva? Alors, la teshuva, normalement, vous savez, quand on fait la teshuva Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait Yom Kippour? Une grande partie de la tefila Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle les alchet. Qu'est-ce qu'on fait dans l'alchet? On fait des aveux. D'accord, on fait des aveux. On fait un aveu, on dit, voilà, j'ai fait ci, je demande pardon. Parce que c'est une mitzvah. Quand on fait teshuva, je peux faire un aveu. Comme on expliquera après, de la même manière que j'ai fait la vera avec mon corps, je dois exprimer verbalement ce que j'ai fait, pas seulement mentalement. De la même manière que la vera, je l'ai faite avec mon corps, je dois exprimer verbalement la verote que j'ai fait. Très bien. Ah, il y a des avis qui pensent que la mitzvah de la teshuva, c'est quoi? C'est quoi aujourd'hui la mitzvah de la teshuva? C'est quoi la mitzvah de la teshuva? C'est l'aveu. C'est ça la mitzvah de la teshuva, c'est l'aveu. C'est le mari qui vient voir sa femme et dire voilà, écoute, désolé, voilà, j'ai fait ça. Je scoop. Ça, c'est la teshuva. D'accord? Admora Zaken a expliqué, selon la vie d'Admora Zaken, il s'est passé à la teshuva.
Ça, c'est pas grave.
Il dit, dans le cadre de la teshuva, hein, de ce qu'on expliquera, ce qu'est la teshuva, on devrait également faire un aveu. Mais c'est pas ça la teshuva. La teshuva n'est pas l'aveu. Minatora, selon la Torah, c'est quoi la teshuva? Azivat achet bilvad. C'est uniquement le fait d'abandonner la faute. C'est-à-dire de décider de ne plus fauter. C'est ça la teshuva. Quand on fait teshuva, ça veut dire quoi? Ça veut dire je décide de ne plus fauter. Alors encore une fois, par exemple, quelqu'un sur les 613 mitzvot, il a fauté sur une chose. Une chose. Par exemple, une fois, il a manqué le schéma. C'est quoi la teshuva d'après vous? La teshuva d'après vous, c'est qu'il dit plus jamais dans en avant je manquerai le schéma. C'est ça la teshuva?
Pas mal.
Est-ce que c'est ça la teshuva?
Oui, je me mettrais plus en condition.
D'accord. Eh ben non, c'est pas une teshuva ça. C'est pas une teshuva.
On revient toujours à l'état d'esprit.
Eh ben non. C'est pas une teshuva. Parce que c'est quoi la teshuva? La teshuva c'est retourner vers un Kadosh Baruch Hu. C'est comme quelqu'un qui blesse sa femme. D'accord. Il blesse sa femme. Non, il a 20 manières de blesser sa femme. Il a blessé sa femme, il dit. Il a blessé sa femme en lui faisant une chose. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit plus jamais je te referai ça. Je dis, bon, je me réserve les 19 autres choses.
Ah là, il va descendre la poubelle le lendemain.
Marche pas, il dit non. Non, pardon, ça veut dire que dorénavant, ce sera irréprochable, sinon ça sert à rien. Il y a des avis qui pensent, c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est tu dis, bon, voilà, sur toute la vera, j'ai fait 7 avera, je décide de plus refaire 7 avera. Ça, c'est la teshuva.
C'est l'action.
Morazaken dit non, c'est pas ça la teshuva.
La teshuva, c'est l'action.
La teshuva, c'est de décider de ne plus fauter du tout. Là où je prends le meilleur exemple, c'est un homme avec sa femme.
C'est pas
qu'il dit je recommencerai plus ça.
On est jamais sûr,
c'est je ne te blesserai plus du tout, sinon t'as rien compris. Sinon tu te moques d'elle, tu dis bon je recommencerai plus ça, mais bon je me réserve pour le reste. T'as rien compris.
On pense pas là, c'est bizarre. C'est... Non, si t'as fait une fausse là-dessus, tu te dis donc que.
Donc tu dis un jour, je recommencerai pas ça. Maintenant je fais Shabbat.
Oui.
Mais par contre, je sais que j'ai encore du temps avant de faire.
Ah, autre chose.
Comment?
Ah, tu dis.
À vous.
Si je vois pas ça maintenant, je fais Shabbat. Mais je sais que j'ai encore quelques années avant d'arriver à ne plus aller à la plage.
C'est autre chose.
À la plage.
Là, c'est non. Quand même, je sais que
autre chose. Parce que là, tu. Non, pourquoi c'est autre chose?
On sait que tu vois le
parce que là, tu es en train de retourner.
J'ai moins bronzé cette année.
Pourquoi c'est autre chose? Parce que tu es en. Attendez, écoutez bien. Pourquoi c'est autre chose? Parce que tu es en train de retourner. Seulement, ton retour, ça prend du temps. Ouais, pas de problème.
Ouais, pas de temps.
Mais par rapport à ce que tu disais, qu'il faut c'est-à-dire arriver au top.
Très bien, mais toi dans ta tête t'as décidé d'être un juif pratiquant. Seulement tu dis je peux pas tout faire d'un coup parce que ça va pas marcher. Donc tu vas prendre ton temps.
Ah oui.
Là, tu prends le temps par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, par rapport au contexte. Bon, prends le temps qu'il faut. Mais encore une fois, t'as décidé de faire ce que Dieu y veut. C'est ça tes chouva. Ça veut dire que c'est à double tranchant ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire d'un côté on peut avoir un juif.
Qui
fait d'Averot toute l'année.
Et qui fait des chouva.
Qui vient jamais à la synagogue. Qui vient à la synagogue que pour Neïla. Mais que quand il vient à Neïla, une fraction de seconde, il dit, ah, j'ai exagéré, il faut que faut que je devienne quelqu'un d'autre. C'est fini, la fête tchouva. D'un autre que tu peux avoir quelqu'un qui est venu au Slichot, il vient tous les jours, matin, midi, soir, etc. Et il a pas décidé de... Ça veut dire, bon, c'est quoi cette tchouva? Cette tchouva, c'est qu'il s'est dit dans sa tête, il s'est dit, bon, plus jamais je referai ça. Plus jamais je referai ça. Mais il a pas décidé de ne plus du tout se revolter contre la Kadosh Baruch Hu. Il a pas fait tchouva. Très grave, ce qu'on est en train de dire.
Ouais, c'est très grave.
C'est un double tranchant. En Minatora, c'est quoi la mitzvah de Teshuva? C'est uniquement décider de ne plus fauter du tout. Tout le reste, c'est du bonus. Après, tous les korbanot qu'on pouvait avoir, korban tratat, korban hacham, etc. Ça, c'est des bouquets de fleurs, comme on expliquera dans le chapitre 2. C'est des bouquets de fleurs pour que, devant Akadosh, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, je sois comme avant. Mais c'est un bouquet de fleurs, ça. C'est pas ça, la Teshuva. La Teshuva, les Slichot, M. David, c'est seulement une mise en condition.
Oui, donc l'état des
on peut avoir quelqu'un qui vient en slichot, qui se pleut au champ, etc., et qui n'a jamais fait teshuva. Il n'a pas pensé une seconde de l'avérot qu'il a fait. Pas une seconde.
Il chante. C'est un retour, quoi qu'il arrive.
Non, c'est pas un retour. C'est une erreur.
On a oublié notre faute.
Ça, c'est l'erreur. Encore une fois. Ça, c'est une erreur. C'est une grande erreur. Les gens pensent, ça y est, on a fait les tefillotes, prières, Shana et Kippour, on a chanté. J'ai payé ma place, voilà, j'ai payé ma place. J'étais là, j'ai payé, j'étais là. D'accord ? C'est pas ça.
Mais non, je peux repartir, c'est ça, c'est pas teshuva.
C'est pas ça, teshuva. Tu peux avoir quelqu'un qui vient tous les jours au slichot, mais qui n'a pas pensé une fraction de seconde à sa verrotte, c'est possible ou pas ? À quoi on pense ? À quoi on pense quand on fait le slichot le matin ? Tu penses à ton... D'abord, les premières minutes, tu penses à ton lit, tu penses que t'es fatigué. Après, progressivement, tu commences à penser au café. D'accord ? Après, le café, tu vas penser, je sais pas, à tes affaires. C'est possible, tu vas faire toutes les slichotes, tu vas pas penser une seule seconde à la verrotte que t'as fait. Pas une seule seconde.
Et il y en a un, il vient une seconde, il y pense.
Et t'en as un, il vient, il fait une slichote.
Moi, je vais faire ça comme moi.
Il a cassé la baraque.
C'est mieux.
Il aime pas ça, les gars.
Ou alors, tu vas y aller une fois, tu vas penser à ta vie, ok.
Non, tu viens une fois, tu fais bien. Comme t'es pas assuré, vous
venez. Attention. Le problème, c'est que quand t'es en connaissance de cause, c'est pas bon.
C'est celui qui vient une fois et qui dit, il a connaissance de cause.
Ça veut dire, imagine-toi, il est même pas venu à la synagogue Kippour. Il a mangé Kippour. Mais, fin de Kippour, comme ça, il y a... D'accord. D'accord. Mais il a fait tchouva. Très bien. À la fin de Kippour, il a dit...
J'ai trop mangé.
Ça se fait pas ce que j'ai fait, je devrais être mieux. C'est fini, il a fait tchouva.
Ah, c'est trop facile, ça. Non.
C'est pas trop facile, c'est très dur.
Je le ressens vraiment.
Oui, ouais, bon, c'est normal, si vous voulez entrer comme
la,
ça.
Voilà, trop facile, heureusement.
Quand j'ai fini la cigarette, je suis pas allé. Non, j'arrête de tuer. Je pense vraiment, mais bon.
Quand tu te rends compte, quand tu te rends compte que tu as manqué,
oui.
Normalement, toute ta vie, tu dois faire tout.
Bien sûr.
Toute ta vie, tu dois avoir ce manque de...
Oui, allez, encore une fois.
Je pense.
Ça, Edmond Razakan va expliquer après. Que la teshuva hein, ne doit pas être vue dans un œil négatif, avec un œil négatif. C'est pas j'ai manqué, je suis dégoûté. Non. Ça doit être vu dans un esprit positif. Je retourne. Tu as raison que finalement, il faut toujours retourner. Même un tzadik, il doit toujours retourner. Même un tzadik, constamment, il retourne.
S'attacher surtout, je pense.
C'est ça, la teshuva. Tu as raison. D'accord. C'est constant. D'accord. Mais c'est pas ça, la mitzvah. Très bien. Ça, tu as raison. Ça, c'est la teshuva, si tu veux, de manière plus élaborée. Mais la mitzvah de la teshuva. La mitzvah, il y a une mitzvah qui s'appelle mitzvah, que lorsqu'on a fauté, on doit faire teshuva. C'est quoi cette mitzvah? C'est une mitzvah qui est seulement d'abandonner la faute, de décider de ne plus fauter. C'est ça la mitzvah de la teshuva. Et rien d'autre. Ni les fautes, ni les korbanot, ni les jeûnes, rien d'autre. La mitzvah de la teshuva, c'est décider, razivat, achet, bilvad. Décider de ne plus fauter. C'est un grand scoop, ici, là, de Morazakan, parce qu'il y a beaucoup qui comprennent autrement. Dans les mots, je continue un petit peu encore. Ça, c'est la mitzvah de la teshuva. Quelle heure il est ?
Dis-moi moins le quart, je pense.
Dis-moi moins le quart ?
Ouais, c'est vraiment trop dramatique.
Dis-moi le quart,
c'est ça. Bon, on va s'arrêter ici, alors. On va pas, ok. La semaine prochaine, avant Rosh Hashanah. Voilà. Du coup, vous avez compris à quoi il faut penser. On a compris à quoi il faut penser pendant les sikhot. Il faut penser à ne plus se révolter contre un kadosh baruch hu. Mais bon, il faut plus élaborer. On a à peine commencé. Vous allez voir, Bezrat Hashem et Yigret HaTshuva, c'est très structuré. Très structuré. Vous voyez, c'est plus facile déjà que les premiers chapitres du Tanya, qu'on a pu étudier avant. C'est plus facile, c'est plus accessible. D'accord.
Comme par hasard, ça fait penser que c'est trois choses que j'ai dit que c'est important pour Rosh Hashanah et Kippour. C'est-à-dire...
Teshuva, Tfila, Tzedaka.
C'est marqué comme ça dans la Mishnah que...
Les trois péchés...
Non, que ces trois choses, ça sauve de la mort.
Les ?
Que ces trois choses-là sauvent de la mort.
Oui. et enfin ça balance le décret, oui.
Voilà.
Oui.
Et avec Rabbi Akiba, avec sa fille, etc. Et comme par hasard, comme en Rosh Hashanah, c'est là où on va décider de si tu vas vivre ou pas, ça correspond pile poil.
Ah oui, mais encore une fois, si on prend les traductions chrétiennes, d'accord ? Encore une fois, c'est les traductions qui sont c'est quoi les traductions chrétiennes ? C'est repentir, prière et charité. Ça veut dire c'est des traductions qui montrent que je risque de recommencer. Moi, je m'excuse pour maintenant. Alors qu'on a vu, qu'on a expliqué comment dans la Torah, c'est exactement le contraire. D'accord ? C'est au contraire, je montre que c'est la chose à faire et que je dois faire comme ça. Justice, comment on l'a traduit ? Justice, attachement et retour. Ça veut dire que c'est la chose à faire. Je dois m'habituer au fait que c'est la chose à faire. Ça, c'est la teshuvah.
Il est écrit après le
Tania.
C'est le
Tania. Il est écrit après. Après c'est vers Chebani, il écrit après. Alors on s'arrête ici pour aujourd'hui, on continuera à Bezrat Hashem la semaine prochaine, avant Rosh Hashanah.
Celui qui fait Kippour, mais qui tente recommencer les Averot, il n'a pas fait Teshuvah.
Il n'a pas fait Teshuvah. Celui qui ne compte pas abandonner ses fautes, arrêter de fauter, il n'a pas fait Teshuvah.
Que les choses soient claires.
C'est à double tranchant.
Et on sait jamais si c'est sincère ou pas sincère.